Laudet Jesus Christus.
L'armée israélienne a commencé à évacuer environ 100 000 Palestiniens de la bande de Gaza réfugiés dans l'est de la ville de Rafah. Le gouvernement israélien est bien décidé à lancer sa dernière offensive contre le Hamas. Pâques pour les églises suivant le calendrier julien, en Terre Sainte principalement, mais aussi en Ukraine où la guerre n'a pas empêché les fidèles de célébrer la résurrection du Christ hier. Mais les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour les civils, c'est ce que nous verrons avec l'exarque de Kharkiv. Les conservateurs britanniques en pleine déroute électorale, les scrutins locaux de jeudi dernier ont confirmé leur fort recul et renforcé les perspectives de large victoire des travaillistes aux prochaines législatives. Le 6 mai, date de prestation de serment des nouvelles recrues de la garde suisse pontificale, nous entendrons le témoignage d'un des 34 nouveaux gardes. Il nous dira ce que signifie pour lui s'engager dans la plus petite armée du monde.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Environ 100 000 Palestiniens priés par l'armée israélienne d'évacuer l'est de la ville de Rafah et de rejoindre des zones humanitaires de manière temporaire. Alors que le gouvernement israélien ne cesse depuis des semaines d'annoncer le lancement d'une offensive terrestre sur cette ville de la bande de Gaza, cette annonce est évidemment perçue comme un prélude à une attaque générale. Retour sur cette décision avec à Tel Aviv, Sandy Fortis.
La décision a été validée hier soir par le cabinet de sécurité israélien. Washington en a ensuite été informé et dès ce matin, l'évacuation a commencé. Les habitants des quartiers est de Rafah ont été priés de se déplacer vers la région de Khan Younes. Une zone humanitaire y a été installée avec des tentes et des hôpitaux de campagne pour les réfugiés. Pour prévenir la population, l'armée israélienne a utilisé plusieurs moyens, lancé de tracts en arabe, appels téléphoniques et SMS. Cette évacuation a été qualifiée par Israël de limitée. Elle concerne environ 100 000 Gazaouis sur le 1 200 000 qui se sont réfugiés à Rafah depuis le début de la guerre. Elle est surtout qualifiée de nécessaire par Tsahal, dont l'objectif est de combattre les derniers bataillons du Hamas qui s'y trouvent. Pour l'un des responsables de l'organisation terroriste, cette évacuation est une escalade dangereuse qui aura des conséquences. Mais Benyamin Netanyahou rappelle que c'est le Hamas qui fait échouer toutes les tentatives d'accord de cesser le feu.
À Tel Aviv, Sandy Fortis, i24 News pour Radio Vatican.
Le bureau d'Al Jazeera en Israël fermé par le gouvernement israélien qui considère que la chaîne d'information qatari porte atteinte à la sécurité du pays. Impossible de la regarder donc depuis hier pour les Israéliens et les Palestiniens. Cette initiative a été mal jugée par l'Allemagne alliée d'Israël. Berlin considère en effet que c'est un mauvais signal pour la liberté de la presse. Une presse libre et diverse est un important pilier de toute démocratie libérale, a écrit le ministère allemand des Affaires étrangères sur son compte X. Pour les chrétiens de la région qui suivent le calendrier julien, c'était hier la résurrection du Christ. Le pape, lors de la prière du Regina Celli, place Saint-Pierre, leur a souhaité une joyeuse Pâque, espérant que le Seigneur ressuscité comble de joie et de paix toutes les communautés et réconforte ceux qui sont dans l'épreuve. C'était également Pâque en Ukraine, pas de répit dans les combats. Hier, des frappes russes ont tué 3 personnes et blessé 16 autres dans l'est et le nord-est du pays. Et puis, ce matin, une attaque ukrainienne de drones explosifs a visé la région russe frontalière de Belgorod, tuant cette fois 6 personnes et blessant 35 autres. Le contexte peu propice n'a pas empêché les fidèles des différentes églises de célébrer Pâques, mais les conditions de vie, notamment près de la frontière russe à Kharkiv, sont toujours plus difficiles au fur et à mesure que la guerre se prolonge. C'est ce que nous confie l'évêque grec catholique de la ville, l'exarque Vassil Touchapets.
Les zones habitées les plus proches de la frontière russe, les plus proches de la ligne de front, sont celles qui souffrent le plus. Certaines personnes ont été évacuées de ces endroits. Beaucoup s'installent à Kharkiv. Par exemple, jeudi dernier, le jour où nous distribuons l'aide humanitaire, j'ai parlé à un homme qui venait de Vovchansk, à 5 km de la frontière, et il nous a montré des photos de ce qui restait de sa maison bombardée. Rien d'autre qu'un tas de briques. L'homme est venu demander des vêtements, des draps, de la nourriture et des chaussures, car il n'a pratiquement rien. À Kharkiv, il loge dans l'appartement de ses amis qui ont quitté la ville. De nombreuses personnes qui ont déménagé ici sont obligées de prendre un appartement en location et de dépenser le peu d'argent qu'elles reçoivent de l'État. Il ne leur reste pas grand-chose pour acheter de la nourriture et des médicaments. La situation humanitaire est donc très difficile.
Des propos recueillis par notre consoeur du programme ukrainien, Svitlana Khdurovitch. Toujours concernant ce conflit, la Russie va organiser dans un futur proche des exercices nucléaires, impliquant notamment des troupes basées près de l'Ukraine, en réponse aux menaces de dirigeants occidentaux envers Moscou. Ce sont les propos de Vladimir Poutine qui s'est exprimé ce matin. Le président russe n'a cependant donné aucune précision sur la date, le lieu ou les forces engagées. L'Ukraine, il en était question ce matin dans la conversation que les présidents français et chinois ont eue à Paris à l'occasion de la visite d'État de Xi Jinping en France. Emmanuel Macron a appelé à une coordination décisive sur la guerre en Ukraine. Les questions économiques ont occupé également les débats, présentes également à l'Élysée, la présidente de la Commission européenne. Les Européens ont ainsi demandé aux Chinois des règles équitables pour tous. Xi Jinping, lui, s'est borné à vouloir renforcer la coordination stratégique entre l'Europe et la Chine. Un autre entretien plus politique doit avoir lieu dans la journée. Une vraie claque au Royaume-Uni. Les résultats des élections locales de jeudi dernier confirment la déroute des conservateurs. Ils ont perdu 496 sièges, soit près de la moitié des sièges municipaux remportés au dernier scrutin il y a 4 ans. Les travaillistes, les libéraux-démocrates et les verts ont le plus profité du recul des Tories. La victoire du Labour aux prochaines élections législatives apparaît comme le scénario maintenant le plus probable. À Londres, Jean Jaffré.
L'ancienne ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, reconnaît que ce n'est pas le moment de changer de leader à 8 mois au plus tard des législatives. Mais, dit-elle, son plan pour gagner les prochaines élections ne marche pas. Sa solution, encore un coup de barre à droite, ce qui aggraverait la désunion au sein du Parti conservateur. Les ministres envoyés faire la tournée des matinales dans les studios des médias soutiennent que les mesures prises par M. Sunak donnent des résultats. Ils citent la baisse de l'inflation, la réduction des cotisations sociales et des listes d'attente pour obtenir un rendez-vous à l'hôpital. Le gouvernement compte aussi sur le début des vols charters pour expulser des migrants au Rwanda. Le Parti travailliste se félicite de ses excellents résultats, notamment la réélection du maire de Londres, Sadiq Khan, pour un troisième mandat, et d'avoir remporté de justesse l'élection du maire dans les West Midlands. Pour Keir Starmer, ces gains substantiels constituent la dernière étape avant le retour de la gauche au pouvoir. Il convient cependant de relativiser car la participation a été faible, moins de 30% dans la plupart des scrutins, et le Labour a perdu sa majorité dans plusieurs conseils municipaux à cause d'une position jugée trop pro-israélienne dans le conflit entre Israël et Gaza. Laurent Jean-Jaffré, Radio Vatican.
Autre scrutin aujourd'hui au Tchad, les électeurs sont appelés à désigner leur futur président de la République. Les deux favoris sont le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien dirigeant tchadien mort au combat il y a 3 ans, et son premier ministre, Success Masra, ancien opposant qui a accepté de diriger le gouvernement. 8 autres candidats concourent à cette élection à l'issue incertaine. Direction le Vatican où, comme chaque année, le 6 mai marque une date importante pour la garde suisse pontificale. C'est en effet en cette journée que les nouvelles recrues prêtent serment, en ce jour où est commémoré le sac de Rome. Le pape ce matin a reçu les membres de cette armée unique en son genre, les remerciant pour leur service et les invitant à cultiver les liens de fraternité au sein de la garde. Cette année, les nouvelles recrues sont 34, parmi lesquelles Gaël Favre, 21 ans du canton de Fribourg. Il nous explique ce que signifie pour lui s'engager dans la garde suisse pontificale.
C'est un service que... Je pense qu'il y a une cause des plus nobles qu'on puisse faire, un bon service qu'on peut rendre à l'Église. Et puis, toujours se rendre compte qu'on a beaucoup de chance d'être là et que beaucoup voudraient être à notre place. On a aussi des séances de théorie avec notre chaplain de la garde suisse, où là, nous voyons tout ce que ça veut dire, tout ce que la phrase qu'on dira pendant le jurement, tout ce qu'elle évoque, pourquoi on dit ces mots-là, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire. Et puis, émotionnellement, faut bien se rendre compte, déjà avant de venir ici, pour servir, bien se rendre compte de ce qu'on fait là, pourquoi on est là, et également pendant le jurement, être sûr de ce qu'on dit, et puis le respecter après, c'est pour la vie. En tant que catholique, on est là donc au centre de tout ce qui se passe pour les églises catholiques du monde entier. Le but sera de pouvoir engranger tout ce que j'ai appris là pendant 2 ans pour pas retourner chez moi et puis tout lâcher, continuer mon parcours.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel, et la prestation de serment aura lieu cet après-midi dans la cour Saint-Damas du Palais Apostolique. Un événement que vous pourrez suivre en direct, commenté en français sur notre site internet www.vaticannews.va et notre page Facebook. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et tous, une excellente journée.